Allez, chers auditeurs, détendez-vous, enfoncez-vous dans votre siège. Mathilde et Pauline vous présentent le journal de la culture. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Bonjour Pauline.
Bonjour Marie, bonjour Mathilde. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le journal de la culture de ce mercredi 25 février 2015. Au programme, un retour sur la polémique initiée par la sortie du film American Sniper de Clint Eastwood, puis restez à l'écoute pour un quiz qui vous plongera au cœur des actualités culturelles les plus insolites.
Les bonnes les rabelles, les perleuses, les bons passants, les renoirs et les rembrandts qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Sartex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas, la culture est une...
Mais tout d'abord, retrouvons l'agenda culturel. On commence par une petite sélection des sorties de la semaine au cinéma par Mathilde.
Alors, merci Pauline. J'ai décidé de vous amener avec moi dans les steppes mongoliennes avec la sortie du Dernier Loup, un film franco-chinois de Jean-Jacques Arnaud. J'ai sélectionné également pour vous un film peut-être un peu plus difficile, Loin de mon père, film israélien de la réalisatrice Keren Yedaya, qui aborde la relation père-fille à travers le très douloureux thème de l'inceste. Mais si je devais vous donner un conseil, ce serait d'aller voir quelque chose de peut-être un petit peu moins déprimant avec Birdman, le film qui a reçu 4 Oscars, comme l'avait indiqué Thomas.
Oui.
C'est l'histoire réalisée par Alejandro González Iñárritu. J'espère ne pas écorcher son nom. Tu me le diras,
on
Caroline.
On espère aussi.
D'un ancien acteur de l'histoire d'un ancien acteur de blockbuster américain habitué au rôle du super-héros Birdman et qui essaie de se faire refaire une crédibilité avec une pièce de théâtre qu'il monte. Alors il me semble que c'est vraiment un récit très rempli d'absurdité, de poésie et de réflexion sur ce que c'est que le cinéma avec un regard très ironique.
Ça s'appelait à Mathilde la métacritique du
cinéma.
Voilà,
exactement. Alors moi je me laisserais bien tenter.
Oui, bah c'est vrai que moi aussi je me laisserais bien tenter et puis j'ai l'impression que ce film nous dit une chose, c'est n'allez pas au cinéma, allez au théâtre. Et moi je vous dis une autre chose, c'est n'allez pas au théâtre, c'est aller à la bibliothèque.
Ah oui,
parce
oui.
que... Parce que, et oui, donc,
c'est vendeur, hein.
Et plus précisément, la Bibliothèque nationale de France ou la BNF, il faut savoir que le décret qui a stipulé sa création date de 1994 et que son ouverture effective a eu lieu en 1996, ce qui signifie que 2015 est l'année médiane de la genèse de la BNF telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle fait donc ses 20 ans. Pour rappel ou pour information, ces missions sont diverses. Il s'agit notamment de collecter, cataloguer, conserver et enrichir tous les champs de la connaissance avec un accent bien sûr sur le patrimoine de la culture et de la littérature française, n'est-ce pas ? Mais c'est également assurer l'accès du plus grand nombre aux collections et également préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont elle est dotée. Parce que la BNF, ce sont en effet également des bâtiments, un lieu et un endroit magnifique avec 4 tours de géant qu'on doit à l'architecte Dominique Perrault, mais également des jardins où, il faut savoir, se reproduisent très souvent les lapins.
Bah oui, il y a des petits malins qui les ont descendus en rappel avec une corde. Et un couple, et depuis, ça a fait des bébés et il y a des lapins partout.
C'est vital comme information. Merci Mathilde.
Mais je crois, Mathilde, que l'on peut faire autre chose à la BNF qu'à les
lire.
Oui,
bien sûr, je vais rajouter pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien cette très belle bibliothèque, que la BNF abrite en plus des lapins, également tout au long de l'année de très belles expositions permanentes, temporaires, en son sein et hors de ses murs. Alors moi, celle que j'aimerais vous conseiller aujourd'hui, c'est une exposition hommage au dessinateur décédé de Charlie Hebdo qui aura lieu du 26 mars au 12 avril.
Alors la polémique culturelle de ce mercredi 25 février, on en parlait tout à l'heure, c'est la sortie du film American Sniper du réalisateur Clint Eastwood, qui est sorti mercredi dernier et qui retrace l'histoire vraie de Chris Kyle, un sniper de l'armée américaine qui est devenu un véritable héros national après avoir tout de même abattu plus de 160 ennemis durant la guerre d'Irak. Alors le film est en tête du box-office français de la semaine, plus de 800 000 entrées en quelques jours, et ce succès est encore plus considérable aux États-Unis. Il a déjà rapporté 300 millions de dollars de recettes.
Mais oui Marie, et derrière tout ce succès, il y a un film qui soulève de très nombreuses questions. Et c'est vrai qu'en fait, le film est basé sur un roman autobiographique de ce fameux Chris Kyle, qui avait été un véritable best-seller aux USA. Et il me semble que ce film a beaucoup plus d'ambiguïté que parce que dans cette dans cette œuvre, on découvrait un tueur qui ne témoignait aucune hésitation, aucun regret, si ce n'est de ne pas avoir tué encore plus d'ennemis, et un patriotisme et un amour des armes exacerbés qui, évidemment, ne manquent pas de déranger en France comme aux États-Unis. On sait, par exemple, que Michael Moore s'est élevé contre les snipers.
Oui, tout à fait. Alors, Michael Moore a tenu à dire qu'il ne jugeait pas de la qualité cinématographique de l'œuvre, mais du sujet, et notamment en qualifiant le fait d'être un sniper comme une activité tout à fait lâche, mentionnant que son oncle avait été tué lui-même par un sniper lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qu'il visait par là, c'est le fait notamment donc, d'être à distance, hein, quand on est un sniper, avec cette asymétrie un petit peu des parties qui fait que la cible n'est pas du tout au courant et n'a aucune chance. Et il mentionnait, il faut le noter, le fait qu'en revanche, il considérait que si c'est sur le sol états-unien et qu'il y a une personne qui nous menace, on est en droit d'être un sniper. Donc il soulevait aussi l'ambiguïté suivante, à savoir on pourrait utiliser pour se défendre une arme chez soi, mais pas dans le cadre d'une guerre à l'étranger.
Voilà. Sophie, je me pose vraiment cette question de la violence, et finalement il me semble que là où Clint Eastwood a témoigné beaucoup plus de subtilité et d'ambiguïté, c'est qu'il donne à son héros la capacité d'hésiter. On le voit par exemple dans cette scène très poignante où il hésite à tirer sur un enfant qui a une grenade et qui représente évidemment un danger, et tous ces parallèles incessants entre sa propre vie de famille, ses propres enfants, sa propre femme et ces civils qu'il va tuer sur le sol irakien.
Mais en fait, on peut se demander si c'est pas justement l'ambiguïté ou le caractère profond de l'œuvre cinématographique qui gêne, à savoir montrer qu'un sniper peut-être avoir des états d'âme. Ça peut être aussi une question de la polémique, mais... Voilà.
Globalement.
Donc, on vous le conseille, faites-vous une idée. Il paraît que c'est une grande œuvre de cinéma.
Ah bah oui, surtout si vous êtes
poignant, oui.
Voilà,
assez
pour
poignant.
Tous ceux qui sont fascinés par la mort, allez donc voir ça. À propos de fascination pour la mort, Pauline, tu avais quelque chose à nous dire à ce sujet, non ?
Oui, tout à fait. J'ai quelque chose à vous dire au sujet de la mort, qui est,
oui, merci,
qui est que les enfants, allez, nous sommes mortels. Nous sommes mortels.
Ah bon ?
Non.
Voilà.
Oh non.
Trêve de plaisanterie. Il y a quelque chose qui n'est pas mortel cependant, c'est l'art. C'est-à-dire que si on a du mal avec l'idée que la guerre ça puisse tuer effectivement, il faut savoir que l'art, et y compris l'art plastique, peut mettre en scène la mort. Et nous allons le voir maintenant dans notre quiz de culture insolite. Donc, concernant justement l'art plastique et la mort, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'un nouveau musée a été inauguré à Berlin, qu'il aurait pu ne jamais ouvrir ses portes, puisque les pièces qu'il abrite sont pour le moins spéciales. De quoi s'agit-il selon vous ?
Alors, j'ai très peur, on vient de parler de mort, donc...
Le musée du cercueil.
Alors ça, c'est... Bravo, ça, c'est
ton
budget. Non.
Le mauvais espoir.
Non, alors, bon... C'est vrai que c'est pas loin de ce que disait Marie, c'est-à-dire que ça a rapport au corps et au cadavre. Il faut savoir que l'anatomiste allemand de 70 ans, Günther Verhagens, a inauguré la semaine dernière, le 18 février, très exactement, son musée de l'homme, qui abrite de nombreuses pièces et notamment des corps qui sont conservés selon la technique dite de plastination. Il faut savoir qu'avant d'être conservés et mis dans le musée, ces pièces étaient itinérantes. Et qu'il a fallu quand même à l'anatomiste se battre contre la municipalité qui ne voulait pas qu'un tel musée puisse ouvrir ses portes.
Tu m'étonnes.
Voilà. Donc c'était la petite info un peu glauque, j'avoue.
Voilà,
du
merci
jour.
Pauline pour cette information bien glauque.
Oui, merci.
Alors attention, vous allez devoir deviner quelle œuvre vient d'être vendue pour la modique somme de 2,5 millions d'euros. Et pour cela, je vous propose un indice musical.
Ils ont enfin coupé la houppette de Tintin.
Un peu de sérieux, maire de Brest.
Mais c'était très sérieux.
Un album.
Je sais pas, moi, le Château de Moulinsart.
Un original, un premier exemplaire.
Tu n'es pas loin, Nicolas, parce qu'il s'agit d'un dessin original d'Hergé, réalisé à l'encre de Chine pour la couverture de l'album de Tintin, L'Étoile Mystérieuse. Tenez-vous prêt pour le second indice sonore. Je vous laisse écouter et répondre à cette question. Quelle compétition s'est tenue cette semaine ? Au sein du salon de l'agriculture, des idées autour de la
Transistor,
table.
Transistor, la radio qui égorge des porcs en direct. Merci.
Ah non. En fait, nous envisageons une reconversion dans le journal de l'agriculture. Mais...
Non, parce que justement, Pauline, le salon de l'agriculture, ce n'est pas seulement une manifestation éminemment culturelle, c'est hautement artistique. Il s'agit du concours du meilleur cri de cochon remporté pour la sixième fois consécutive par le champion du monde, du cri de cochon, Jean-Michel Meunier dit nono.
Ah, mais présentez-le moi, amenez-le moi.
C'est un humain.
Je ne sais pas si.
Ok, ouais, oh,
oui, un concours de cris de cochon.
Par des humains.
Ça pourrait être des vrais cochons.
Ils sont déguisés d'ailleurs.
La dernière petite question que je vais vous poser, n'a pas généré des cris de cochon, mais en tout cas des cris d'orfraie. Il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Hollywood's Best Part, ou en français La meilleure fête d'Hollywood, et qui a donc créé la polémique quelques jours avant la cérémonie des Oscars aux États-Unis à Los Angeles. De quoi s'agit-il, d'après vous?
Alors, une fête à Hollywood, moi ça me fait juste penser à The Great Gatsby, mais à part ça, j'ai pas trop d'inspiration en ce moment.
Hollywood,
Great
Gatsby.
Ça aurait pu.
Alors en fait, donc cette œuvre, ce n'est pas un film. On a beau être cinéaste aujourd'hui, ce n'est pas un film. Il s'agit d'une statue qui a été faite par un artiste qui s'appelle Plastic Jesus, rien que ça, et qui est habitué en fait des statuettes de camé, parce que tout simplement, il a pour ambition de dénoncer le règne de la drogue dans la jet set hollywoodienne. Et évidemment, ça a gêné parce que c'était juste devant le lieu de Dolby Théâtre, hein, de la cérémonie des Oscars. Donc on l'a enlevé jeudi dernier. Mais on peut toujours admirer cette œuvre. Sur Melrose Avenue, quelques rues plus loin. Voilà.
Eh bien, merci les filles d'avoir essayé d'être sérieuses. Plastic Jesus, franchement.